Le terrorisme est un phénomène qui est un phénomène mondial. Et aucun État ne peut prétendre lutter contre le terrorisme tout seul. C'est impossible. Et comme le phénomène est mondial, il faut que les Nations Unies soient non seulement présentes, mais extrêmement actives. Alors au niveau du Conseil de sécurité, nous faisons ce travail d'analyse et d'évaluation des capacités contre le terrorisme des États, mais aussi nous faisons, dans le cadre de l'analyse, la collecte de toutes les faiblesses, de tous les éléments qui sont nécessaires, et en particulier sur la coopération internationale en matière pénale, entre les procureurs, les policiers, les gens qui s'occupent du soutien à ces deux institutions, parce que, malheureusement, la coopération n'est pas suffisante, parce qu'on n'a pas suffisamment incorporé dans les législations nationales ce que nous avons fait au niveau international, et deuxièmement aussi parce que la coopération nécessite des moyens, des outils. Et ces outils ne sont pas forcément à la disposition des États.
Il y a des points qui ont été marqués contre Daesh et contre les autres organisations. L'État islamique recule aujourd'hui en termes financiers, en termes de contrôle des territoires. Est-ce que ça veut dire quand même que l'action qui a été menée depuis de longues années a quand même commencé à payer ?
Ah oui, elle a porté ses fruits. Par exemple, sur le plan financier, il y a encore 2 ans, Daesh avait des ressources entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. Maintenant, ils n'en sont plus qu'à 13 millions de dollars. Ça, c'est la première des choses. En termes de réduction du territoire, c'est énorme. C'est 80% du territoire qui a été repris à Daesh. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a à peu près entre 40 et 50% des combattants terroristes étrangers qui sont rentrés chez eux. Alors, c'est une bonne et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que c'est effectivement, ils ne sont plus dans les troupes de Daesh, mais ils reviennent vers leur pays. Les combattants terroristes étrangers qui sont encore sous place et qui commencent à revenir, je dirais, au-delà des 50%, sont encore plus dangereux parce que c'était ceux qui étaient les plus impliqués dans les opérations.
Comment l'ONU peut contraindre ou inciter les États justement à rejoindre la communauté internationale dans cet effort judiciaire et policier ?
Il y a 2 éléments. C'est que quand même les résolutions du Conseil de sécurité sont des éléments contraignants. Deuxièmement, nous avons une force qui est très spéciale. C'est qu'on n'est pas que l'ONU. À l'ONU ici et surtout à la DECT, on peut rassembler de nombreuses autres organisations internationales. Par exemple, Interpol, l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe, d'autres éléments de l'ONU comme l'ONUDC. Donc on a une multitude d'organisations qui viennent travailler avec nous, les parlementaires, comme par exemple l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Et il faut que les États sachent, justement, devant cette menace globale, utiliser tous ces outils. Par exemple, Interpol a des fiches sur 15 000 personnes qui auraient été susceptibles de passer dans les zones de combat. Interpol a aussi des éléments de travail au niveau de 68 millions de fiches d'éléments de travail sur les zones de combat, sur les personnes. Et il faut que les pays aient accès à ça. Alors, quelquefois, les pays sont frileux, considérant que le terrorisme est avant tout une attaque à la souveraineté nationale. Ils oublient d'ouvrir un peu leur perspective pour travailler en collaboration avec d'autres États au niveau multilatéral. Et pour cette vision coordonnée, rien de mieux que le Conseil de sécurité, qui est le garant de la paix et la sécurité dans le monde.
Alors on parle de la coopération judiciaire, on parle de la coopération des polices, vous parlez d'Interpol. Pourtant, au niveau en amont de l'éducation, il y a un travail énorme à faire. Qu'est-ce qui a été amélioré sur ce plan-là et aussi en termes de recrutement, notamment via les médias sociaux ?
Il faut absolument qu'on travaille ces questions de la manière de contrer l'extrémisme violent. Nous travaillons très bien aussi pour tout ce qui concerne le contre-message avec l'UNESCO, le PNUD. Et il faut vraiment aller en amont. Si le terrorisme est une infraction, on pourrait dire qu'on doit travailler sur les questions de développement, d'éducation, d'une manière systémique. Et on peut travailler à partir de ce que l'on sait faire en matière de prévention du crime en général. Nous avons également travaillé sur toutes les questions relatives aux médias sociaux et à la presse, parlée, écrite. Nous travaillons beaucoup avec une organisation suisse qui s'appelle ICT for Peace, mais aussi avec tous les gens de l'Internet, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, pour justement les aider et qu'ils nous aident. C'est un partenariat vraiment mutuel pour que l'on s'entraide, eux, à mieux comprendre les impératifs qu'ils doivent respecter parce qu'effectivement, ils n'ont aucun intérêt et personne n'a aucun intérêt à ce que le terrorisme se propage et en même temps conserver ses valeurs, droits de l'homme, liberté de la presse, liberté d'expression, liberté de penser, la première des libertés, qui sont essentielles et que nous devons défendre parce que ce sont les valeurs de la Charte des Nations Unies et du Pacte des droits civils et politiques.
Dernière question justement sur un maillon qui est souvent omis dans cette fameuse lutte contre le terrorisme, ce sont les victimes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les victimes et qu'est-ce qu'aujourd'hui le bilan que vous tirez de l'action de l'ONU pour justement soutenir et venir en aide aux victimes ?
Le terrorisme n'a pas de religion. Je pense que la religion est un prétexte pour commettre une violence encore plus forte que celle qui sortait du crime organisé. D'ailleurs, c'est très intéressant, malheureusement, de voir que de nombreuses personnes qui versent dans la radicalisation et le terrorisme sont passées d'avant par la petite délinquance, la moyenne délinquance et voire la grande délinquance. Malheureusement, du fait de leur conduite, il y a les victimes. Dans ce combat contre le terrorisme, elles sont souvent oubliées par la nature même du combat. C'est-à-dire que comme les personnes qui deviennent des terroristes veulent mourir les armes à la main, il y a très rarement des procès. Or, le procès est un élément extrêmement important pour la reconstitution de la personne, si tant est qu'elle soit encore vivante, ou en tout cas pour ses proches, si malheureusement elle a été tuée dans l'action terroriste. Ces terroristes-là doivent être appréhendés et doivent être traduits devant la justice pour que les victimes puissent avoir la voix qui leur revient devant les instances judiciaires des pays concernés.